Figurez-vous que 5 à 10 Belges feraient partie du groupe islamiste syrien surnommé HTC, qui a pris le pouvoir à Damas le week-end dernier. Cela présage-t-il d'une recrudescence de ce phénomène qui hante l'Europe et les combattants étrangers, par exemple? L'analyse avec Sébastien Boussois, spécialiste du Moyen-Orient à l'Observatoire stratégique de Genève et auteur d'un ouvrage intitulé « Daesh, la suite ». Il est au micro de Lucie Gilson.
Bonjour Sébastien Boussois.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient à l'Observatoire stratégique de Genève et auteur de Daesh, la suite. Et justement, je voudrais vous parler de ce sujet sur nos antennes, car depuis la chute du régime Bachar al-Assad en Syrie, provoquée par la prise de pouvoir d'une coalition de rebelles, dont l'organisation HTS, qui est répertoriée quand même comme terroriste, on craint une renaissance de Daesh. Alors, on savait déjà que la Belgique était particulièrement concernée par le phénomène des foreign fighters. Mais hier, la RTBF a révélé qu'il y aurait entre 5 et 10 Belges dans les rangs de ce groupe, donc HTS en Syrie. Alors, Sébastien Boussois, est-ce qu'on doit s'en inquiéter?
Oui, il y a toutes les raisons de
s'inquiéter de l'effondrement du régime de Bachar al-Assad. Et ça ne veut pas évidemment dire être nostalgique ou trouver regrettable que cette horrible dictature se soit effondrée. Mais dans le même temps, on a pu constater avec les lois de l'histoire, maintenant depuis un certain nombre d'années, et surtout la déception globale que les printemps arabes ont produit dans la région, que l'on ne passe pas d'un régime autoritaire, tyrannique et dictatorial à une démocratie épanouie et ouverte telle qu'on peut encore le constater dans un certain nombre de pays en Europe. Donc ça veut dire que pendant toute cette période dite de transition, une transition qui peut durer, d'ailleurs ne jamais finir, ou basculer dans la guerre civile ou le chaos, comme ça a été le cas notamment en Libye et en Irak, on a aujourd'hui évidemment un flou totalement artistique sur la manière dont les choses vont se passer. Et dans cette phase d'euphorie sur à la fois la libération des prisons en Syrie, où on a trouvé effectivement des opposants politiques enfermés depuis des décennies par Bachar al-Assad, mais aussi de dangereux djihadistes ou militants islamistes de tout poil, si je puis dire. Et on a évidemment actuellement une véritable inquiétude sur la situation à l'intérieur même de la Syrie, avec, vous l'avez dit, ces endroits qui sont aujourd'hui extrêmement, on va dire, vaporeux et en tout cas difficilement sous contrôle. C'est l'ancienne poche d'Idlib où on a trouvé des combattants étrangers européens, mais également français. Je pense par exemple à Omar Onfen, cet individu qui a suscité les vocations et le départ d'une centaine de jeunes depuis Nice et les Alpes-Maritimes et qui est encore dans la poche d'Idlib. Il y a d'autres combattants de cet ordre-là. Et puis il y a dans les Foreign Terrorist Fighters aussi des combattants européens, dont français et belges, que l'on peut trouver dans cette fameuse zone Syro irakienne, mais également dans les camps tenus par les Kurdes. Et à mon avis, c'est là la véritable attitude, c'est que le djihadiste s'est toujours régénéré, phase de disparition ou discrétion, un peu comme dans l'espionnage d'ailleurs, cellules dormantes et des cellules qui se réveillent au moment opportun. Je pense que malheureusement, cette période-là que va connaître la Syrie va offrir la possibilité à un certain nombre de ses combattants ou recruteurs de faire valoir à la fois leur propre idéologie, leur combat, la volonté, par exemple, de venger l'effondrement du califat de Daesh. Et je finis juste là-dessus, le fait que vous ayez mentionné que Al-Jolani est le dirigeant d'une organisation HTC ou HTS qui est répertoriée comme une organisation terroriste par les États-Unis, et il est toujours recherché, va décomplexer un certain nombre de courants et de djihadistes de tous bords, pour, à mon avis, reprendre le combat, effectivement, et faire entendre leur voix face aux démocrates et tous ces opposants qui voudraient essayer de faire une Syrie démocratique et laïque, ce qui est antinomique complètement avec tous ces courants, bien sûr.
Alors, aujourd'hui, la Belgique ou les pays européens qui sont concernés par ce phénomène de combattants étrangers, ils prennent la mesure de ce qui se passe?
Écoutez, les pays européens ont une responsabilité importante sur un certain nombre d'éléments dans ce dossier. Tout d'abord, à l'époque de Daesh et au moment où le calife al-Baghdadi encourageait les combattants à partir, on a fait preuve de très peu de lucidité, notamment en termes de prévention des extrémismes violents. Et beaucoup de jeunes sont partis vers la Turquie pour faire diversion et sont arrivés évidemment sur le terrain syro-irakien. Je ne crois pas qu'on ait mesuré en 2014-2015 l'influence et l'importance énorme de cette idéologie mortifère. Je ne crois pas qu'on ait mesuré que l'objectif final de cette idéologie, c'est d'aller jusqu'au bout dans le projet, comme dans la vie des individus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez le martyr, ce fameux chahid, qui doit être ce sort de couronnement absolu, que les individus seront prêts à tout pour le faire. Et puis, où on a été extrêmement naïf et à mon avis quelque part aussi un peu inconscient, et ça a fait débat en Belgique et en France, c'était la question des rapatriements. Après la chute de Raqqa, la question était de savoir si on allait faire rentrer ces combattants, si on allait juste faire rentrer les enfants, et qu'est-ce qu'on appelle un enfant quand vous avez des gamins de 10 ans qui ont probablement déjà tué des gens à l'époque. Est-ce qu'on rapatrie l'enfant? Est-ce qu'on le rapatrie avec la mère? Est-ce qu'on le rapatrie pas sans la mère? On a beaucoup, beaucoup tergiversé. Je pense que l'idée n'aurait pas été absurde pour ceux qui voulaient rentrer, de pouvoir les faire rentrer, de judiciariser leur situation pour les mettre en prison, pour essayer d'entamer un processus de désengagement. Je crains fort maintenant que pour ceux qui voulaient rentrer et qu'on a refusé, évidemment pour des raisons idéologiques, peur que ces individus finalement soient des terroristes qui reviennent au cœur même du continent européen, on n'a pas eu de contrôle sur ces individus pendant des années et je pense qu'aujourd'hui, ils sont prêts à reprendre effectivement le combat entouré par une idéologie qui, contrairement au califat, contrairement à des États, ne meurt malheureusement jamais.
Aujourd'hui, les dirigeants de HTS, notamment le Premier ministre par intérim qui a été désigné en début de semaine, appellent il a un discours plutôt apaisé, il appelle à l'apaisement, il essaye de rassurer la communauté internationale. Vous y croyez ?
Personnellement, je n'y crois pas du tout pour une simple raison, c'est que HTC ou HTS sont effectivement présentés aujourd'hui comme les grands vainqueurs de l'effondrement du régime de Bachar al-Assad. Al-Jolani, le grand nouveau Ilogou, si je puis dire, des califes qui a voulu être là à la place du calife, est issu d'un courant djihadiste, est un ancien d'Al-Qaïda, a fondé le front Al-Nosra, et peu durs, effectivement, qui ont combattu contre le régime de Bachar al-Assad, mais qui font partie de toute cette nébuleuse djihadiste dont beaucoup, en réalité, ne sortent jamais. Je ne vois pas comment on peut, demain, construire un pays avec une organisation classée comme telle par tous les pays occidentaux, ou presque, c'est-à-dire djihadistes et terroristes, par un dirigeant qui, en fait, va progressivement voir son mythe glorifié, puisqu'on a décidé que c'était lui qui avait gagné, qui était à l'origine de l'effondrement du régime de Bachar al-Assad. Or, je suis absolument opposé à cette idée, même parce que ce qui a fait s'effondrer le régime de Bachar al-Assad, c'est l'abandon clair net de la Russie et de l'Iran. On voit bien la manière dont la guerre, entre guillemets, dont la conquête de Damas s'est opérée. Cet individu, avec ses combattants, est passé de ville en ville sans qu'il y ait mis combat. Au moins ça a salué, quand il n'y est quasiment de mort, avec très peu de combats, et ce qu'on nous annonçait comme la bataille de Damas n'a pas eu lieu parce que l'armée s'est carapatée comme Bachar al-Assad. Sur le fait qu'il n'y ait pas eu de mort, c'est une bonne chose. Mais ça veut dire que cet individu-là, évidemment, va vouloir avoir un rôle stratégique dans cette nouvelle Syrie, quand il propose une société inclusive. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas de djihadiste modéré, je ne connais pas d'islamiste modéré. Et malheureusement, c'est un discours qu'on entend énormément en ce moment de la part de certains courants politiques ou de certains experts. Certes, il est fondamental de considérer que la chute du régime de Bachar al-Assad est une bonne chose, mais de là à embrasser la cause de ce groupe qui ne sera pas combiné à la fois des opposants de l'intérieur, des opposants de l'extérieur, des Kurdes, des chrétiens qui étaient pro-Bachar al-Assad. Alors qu'est-ce qu'on fait des chrétiens, par exemple ? Je pense qu'il y a évidemment de vraies raisons d'être inquiet sur le risque d'un basculement dans le chaos, en réalité, pour moi, très rapidement.
Ma dernière question, Sébastien Boussois, je voulais savoir, est-ce que on doit donc anticiper une nouvelle vague terroriste, peut-être provoquée par des ressortissants étrangers qui auraient rejoint finalement cette cause-là dans l'avenir proche ?
Bon, je dirais que pour le coup, ce que défend HTC, c'est pas un projet djihadiste global à ce stade-là, et pour l'instant, mais plutôt un projet national pour la Syrie. D'ailleurs, comme les talibans l'ont toujours fait. Les talibans n'ont jamais cherché à exporter leur idéologie et à créer de la terreur à l'extérieur. Ils ont toujours cherché, en fait, à contrôler
l'Afghanistan. C'est peut-être le petit élément rassurant. Maintenant, sur la question de la porosité des frontières, alors on a à la fois bloqué un certain nombre de visas ou autres, mais il y a deux mouvements qui sont en train de se passer en termes de déplacement de population en ce moment. Alors on le voit bien d'ailleurs, je discutais avec des amis qui sont passés sur la fameuse route Beyrouth-Damas. Vous avez d'un côté un afflux massif, millions d'individus syriens qui rentrent au pays. Et puis évidemment, ceux qui font le chemin inverse sont ceux qui fuient, qui étaient soit pro-Bachar al-Assad, soit qui veulent effectivement, ou qui pensent ne pas trouver leur place dans cette nouvelle Syrie. Et ces individus, je ne sais pas s'ils seront portés par une organisation, je ne sais pas s'ils seront soutenus par un groupe quel qu'il soit, mais certains d'entre eux peuvent toujours avoir évidemment cette idéologie en tête et provoquer un attentat au Kouakès. Mais je ne pense pas qu'il y ait de stratégie en amont, maintenant tout de suite, d'aller semer la terreur en Europe. Je pense que la priorité va être que tous ces groupes dans cette foire d'empoigne, que tous ces combattants vont défendre leur bout de gras dans cette terrible Syrie pour y faire leur place, soit créer un nouveau califat, soi-disant permettre une transition démocratique de la Syrie qui, contre tous les autres modèles de la région qui n'ont pas fonctionné, serait une sorte de modèle unique ou en tout cas de succès dans la région, alors tous les autres ont basculé malheureusement, soit dans le retour des dictatures, soit dans des guerres civiles terribles.
Eh bien, Sébastien Boussois, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes spécialiste du Moyen-Orient à l'Observatoire stratégique de Genève et auteur de Daesh, la suite. Merci beaucoup, à très bientôt.